Lettre 55. Suite de la lettre précédente. 4 juillet. Maintenant, vous pouvez, mon cher monsieur, m'envoyer Madame Clinton en toute sûreté. Le plus tôt sera le mieux. Rien ne s'oppose plus maintenant à mon départ de Londres. Peut-être serait-il heureux pour moi que je n'y fusse jamais venu. Madame Duval m'a chargé ce matin d'aller à Snow Hill pour inviter les Brampton et M. Smith à passer la soirée chez elle. M. Dubois, qui a déjeuné avec nous, fut prié de m'accompagner. J'acceptai cette commission malgré moi, car je me souciais peu de me trouver seule avec M. Dubois et tout aussi peu de rencontrer le jeune Brampton. Un autre motif plus pressant ajoutait d'ailleurs à ma répugnance. J'espérais de recevoir une réponse de Mylord Orville. Je me flattais même de sa visite. Néanmoins, il fallut me soumettre aux ordres de Madame Duval. Le moyen de lui tenir tête. Le pauvre Monsieur Dubois n'ouvrit pas la bouche en chemin, et je suppose que cette promenade ne nous amusait guère ni l'un ni l'autre. Nous trouvâmes toute la famille assemblée dans la boutique. Monsieur Smith s'adressa à Miss Brampton dès qu'il me vit et lui fit toutes sortes de galanteries. « Vous voyez, monsieur, que ma conduite au bal de Hampstead a eu un bon effet et je m'en réjouis. » De notre côté, j'eus à essuyer les importunités du jeune Brampton. Il ricana sans cesse et me fixa si impertinemment que, pour me débarrasser de lui, je me vis obligé de quitter mon air de réserve avec monsieur Dubois et de lier conversation avec lui. Monsieur Brampton, le père, jugea aussi à propos de prendre la parole. « J'ai appris avec peine, me dit-il, par mon fils, que vous avez désapprouvé notre conduite à l'égard de Mylord Orville. Mais je voudrais bien savoir ce que vous y trouvez à redire. Il me semble que nous avons arrangé le tout pour le mieux. »« Bonté !» ajouta le fils. « Il fallait voir, Miss, dans quelle colère elle était et avec quel emportement elle quitta la chambre. » « Il est trop tard, leur répondis-je, pour discuter cette matière. Seulement, je vous prierai de ne plus vous servir dorénavant de mon nom sans que j'en sois averti. Au reste, que voulez-vous que je dise à Madame Duval? Lui ferez-vous l'honneur de venir ?»« Quant à moi, répondit M. Smith, je remercie la vieille dame. Je n'ai plus envie d'être sa dupe. Elle m'excusera. » Les autres promirent de venir et je me retirai. En sortant de la boutique, j'entendis que M. Brampton disait à son fils « « Courage, Tom, elle fait la prude !» Je fus à peine à 10 pas de la maison que le jeune homme me suivit. J'affectai de ne point le regarder et, pour l'éviter avec d'autant plus de décence, je m'entretins avec M. Dubois qui devint plus gai que jamais. Malheureusement, il interpréta à faux cette légère attention de ma part. On m'annonça en rentrant qu'il m'était venu pendant mon absence 2 visites dont on me rendit les cartes. J'y lus les noms de Mylord Orville et de Sir Clement Willoughby. Ce dernier m'intéresse peu, mais je regrette infiniment d'avoir manqué le Lord. Il sera parti vraisemblablement à l'heure qu'il est, et je ne le reverrai plus. Le jeune Brampton était venu me rejoindre à la porte de la maison. Il observa que Mylord Orville nous avait suivis tout le long du chemin. Je n'eus rien de plus pressé que de monter l'escalier, et le Sir Brampton trouva bon de s'en retourner, après avoir dit à M. Dubois que je lui paraissais trop fier aujourd'hui et qu'il croyait bien faire en me laissant tranquille. Il aurait été à souhaiter que M. Dubois eût pris le même parti, mais il jugea à propos de me relancer de nouveau dans la chambre à manger où il m'avait vu entrer. « Vous ne l'aimez donc pas, ce garçon, mademoiselle ?» me dit-il. « Non, en vérité, et je le déteste. Sa présence me donne des maux de cœur. »« Ah, vous me rendez la vie !» s'écria-t-il avec transport en se jetant à mes pieds. Dans le même instant, Madame Duval ouvrit la porte. Il se releva au plus vite, honteux et confus de cet accident. Mais comment vous dépeindrais-je la rage de Madame Duval? Elle livra un assaut des plus furieux et sa langue la servit avec une volubilité merveilleuse. Ses reproches semblaient être dictés par la jalousie. Monsieur Dubois fut accusé d'infidélité. Il se défendit faiblement par des subterfuges, et Madame Duval, lui ayant ordonné de fuir sa présence, il lui céda prudemment le champ de bataille. J'eus à mon tour un rude choc à soutenir. Elle me prodigua les titres de séductrice, d'ingrate, de fille rusée. Elle me fit entendre que je n'irais point avec elle à Paris, et qu'elle ne se mêlerait plus de mes affaires, à moins que je ne consentisse incessamment à épouser le jeune Branton. Quoique effrayée que je fusse de la colère de Madame Duval, cette dernière proposition me rendit tout mon courage. Je lui déclarai rondement que sur cet objet, je ne lui obéirai jamais. Cette réponse ne fit que l'irriter davantage et elle me montra la porte. Telle est la situation dans laquelle je me trouve actuellement. Je me dispenserai de voir les Branton cet après-dîner et je souhaite de ne les plus revoir du tout. En attendant, je suis fâchée d'avoir déplu à Madame Duval, quoique ce ne soit point par ma faute. Mais ce qui est très certain, c'est que je serai fort aise quand je pourrai quitter cette ville. Il n'y a plus rien qui m'y attache. Lord Orville est le seul que j'aurais désiré de revoir encore. Un moment d'entretien aurait réparé bien des choses. Je lui aurais expliqué alors ce que je n'ai fait qu'effleurer dans mon billet. En attendant, c'est toujours une consolation pour moi qu'il ait cherché à me parler avant son départ. Cette attention prouve du moins qu'il n'a pas été entièrement mécontent de moi. Adieu, mon cher monsieur. Bientôt, je pourrai vous demander votre bénédiction. Bientôt, le temps reviendra où je pourrai rapporter à votre affection toute ma joie et tout mon bonheur. Lettre 56. Monsieur Villard à Evelina. Berry Hill, 7 juillet. Soyez la bienvenue, mille fois la bienvenue, ma très chère Evelina. Le meilleur et le plus tendre de vos amis vous recevra à bras ouverts. Madame Clinton part en diligence pour vous remettre ses lignes et pour vous ramener directement chez moi, car je ne saurais me résoudre à rester plus longtemps séparée de vous, l'enfant chéri de mon cœur. C'est vous, mon Evelina, qui devez faire la consolation de mes vieux jours. C'est de vous que j'attends l'adoucissement de tous mes maux. Votre présence est nécessaire à ma tendresse paternelle. Ainsi, j'espère que vos dignes amis de Howard Grove voudront bien m'excuser si je les prive de la visite que vous leur destinez avant votre retour à Berry Hill. J'ai bien des choses à vous dire, plusieurs réflexions à faire sur vos dernières lettres, dont divers passages m'ont donné de l'inquiétude. Mais ces remarques feront l'objet de nos conversations. Hâtez-vous, mon enfant, de venir retrouver l'endroit qui vous a vu naître, où vous avez passé votre heureuse jeunesse, où vous n'avez connu ni peine ni regret. Oh, puisse-t-il n'approcher jamais de cette paisible habitation. Adieu, ma très chère Evelina. Je souhaite que votre empressement à me revoir égale le plaisir avec lequel je vous attends. Arthur Villard. Lettre 57. Evelina à Miss Mirvan. Berry Hill, 14 juillet. Vous serez surprise, ma chère Marie, et j'ose même croire un peu affligée, quand, à la place de votre amie, vous ne recevrez qu'une lettre qui n'exprimera que bien faiblement les sentiments du cœur qui l'a dictée. En vous écrivant vendredi, j'attendais à chaque instant Madame Clinton, avec laquelle je me proposais de partir pour Howard Grove. Elle arriva, mais il fallut changer mon plan. Car elle m'apporta, de la part du meilleur ami que jamais orpheline ait trouvé, une lettre pleine de tendresse qui m'enjoignait de retourner incessamment à Berry Hill. J'ai obéi et vous me pardonnerez si je vous avoue que ce fut de bon cœur. Le pouvais-je autrement, après une si longue séparation, sans être la plus ingrate des filles? Et cependant, ma chère Marie, quoique j'eusse souhaité de quitter Londres, l'accomplissement même de ce désir n'a point contribué à mon bonheur. J'avais senti une impatience inexprimable pour revenir ici, et cependant, une profonde tristesse m'a suivi sur la route. Vous auriez de la peine à me reconnaître. Hélas, je ne me reconnais plus moi-même. Peut-être, en vous voyant, aurais-je essayé de verser dans votre sein tous les secrets de mon cœur, et alors... Mais reprenons le récit de mon voyage. Madame Clinton remit à Madame Duval une lettre de M. Villard par lequel il a prié de consentir à mon départ. J'en obtins d'abord la permission, mais lorsqu'elle vit que je quittais Londres avec tant de facilité et qu'elle se persuada que M. Dubois m'était réellement indifférent, elle commença à s'adoucir un peu et elle me déclara que si elle m'avait connu de pareils sentiments, elle n'aurait point souffert que je m'enterrasse de nouveau à la campagne, qu'elle n'avait pensé à me renvoyer que pour punir M. Dubois. Les Branton sont venus prendre congé de moi, mais n'en parlons plus. La patience m'échappe quand je pense à ces gens qui sont la cause de tout le trouble qui m'a accompagné ici. M. Mon abattement fut tel pendant tout le voyage que j'eus toutes les peines du monde à faire revenir la digne Madame Clinton de l'idée que j'étais malade. Hélas, je me trouvais dans une assiette d'esprit plus accablante qu'aucune souffrance du corps. Lorsque je fus arrivé à Berry Hill, lorsque la voiture s'arrêta devant la maison, oh ma chère, comme le cœur me battait de joie! Et lorsque le plus respectable des hommes parut à la fenêtre, quand je le vis lever ses mains vers le ciel, sans doute pour le remercier de mon heureuse arrivée, oh, quelle fut mon émotion! J'ouvris moi-même la portière pour voler dans ses bras. Il s'était disposé à venir à ma rencontre. Mais à l'instant où je mis les pieds dans la chambre, il retomba dans son fauteuil, poussant un profond soupir et prononçant d'un air rayonnant de plaisir ces seules paroles « Je te rends grâce, ô mon Dieu !» Dans l'effusion de ma tendresse, je n'eus rien de plus pressé que de m'élancer à ses genoux. Je les embrassai, je baisai ses mains et je les arrosai de mes larmes. Mais je n'eus pas la force de parler. Il me reçut dans ses bras paternels, me pressa sur son cœur, et la tête appuyée sur mes joues, il eut de la peine à articuler les bénédictions que son âme bienfaisante répandait sur moi. « Oh, Miss Mirvan, chérie de la sorte du meilleur des hommes, ne devrais-je pas être heureuse? Devrais-je connaître d'autres désirs que celui de mériter ses bontés? N'allez pas croire cependant que je sois ingrate. Non, je ne le suis point, quoique l'état actuel de mon esprit me rende incapable pour le moment d'apprécier comme je le voudrais les bienfaits de la Providence. Je cherche en vain à mettre de l'ordre dans ce que j'écris. Mes idées sont trop confuses aujourd'hui. Le local influe bien peu sur notre bonheur. Je m'étais flatté qu'une fois rendu à Berry Hill, je retrouverais la tranquillité. Mais je me suis trompé et jusqu'ici, le repos n'a rien de commun avec votre Evelina. Je rougis de cet aveu. Excuserez-vous, Marie, le sérieux de cette lettre ? Mais je m'impose une contrainte si violente vis-à-vis de M. Villard que j'ai cru devoir la quitter en m'entretenant avec vous. Adieu, ma chère Miss Mirvan. J'ajoute encore un mot. Ne vous laissez point abuser par le ton de cette lettre. N'imputez à personne la mélancolie dont je m'accuse. Ne vous imaginez point que mon cœur est trop facile à recevoir des impressions. C'est à moi seul, et non à des causes étrangères, qu'il faut attribuer la situation où je me trouve. Rien n'est plus vrai. Croyez-en votre affectionnée, Evelina. Post-scriptum, je vous supplie de faire agréer mes excuses à Lady Howard et à Madame votre mère. Lettre 58. Continuation de la précédente. Berry Hill, 21 juillet. Vous m'accusez d'être mystérieuse, et puisque vous le dites, je dois croire que j'ai mérité ce reproche. En attendant, vous ne savez pas, ma chère, combien il m'en coûte de me justifier. Mais je ne connais point le moyen de résister à vos instances obligeantes, et je vais vous confier tous mes secrets. Ma réserve serait d'autant plus déplacée que j'y perdrai la première. Car j'espère bien que votre amitié et votre affection contribueront à me soulager. Soyez sûre que si mes chagrins partaient d'une autre source, je n'aurais pas balancé un instant à vous ouvrir mon cœur. Mais la situation dans laquelle je me trouve est telle que je voudrais la cacher non seulement au monde entier, mais à moi-même, si cela se pouvait. Venons au fait, puisqu'il faut parler. En vérité, je ne sais comment m'y prendre pour vous l'expliquer. J'essaie 20 tours de phrases et aucune ne veut se prêter à mes idées. Je fais un effort pour entrer en matière. Ah, Miss Mirvan, eussiez-vous jamais cru qu'un homme qui semblait être formé pour servir de modèle, qui approchait de la perfection, qu'un homme d'une politesse achevée, d'une douceur de mœurs au-dessus de toute comparaison, l'eussiez-vous cru, Miss Mirvan, qu'un Mylord Orville aurait pu me traiter avec indignité? C'en est fait, jamais je ne m'en fierai aux apparences, jamais je n'en croirai mon faible jugement, jamais je ne me persuaderai que pour être homme de bien, il suffit d'être aimable. Quelle maxime cruelle la connaissance du monde n'inspire-t-elle pas? Mais tandis que je m'abandonne à mes réflexions, j'oublie que je vous ai laissé en suspens. J'avais précisément achevé la dernière lettre que je vous ai écrite de Londres quand la servante du logis m'apporta un billet. Le laquais qui le lui avait remis avait dit qu'il repasserait le lendemain pour prendre la réponse. « Ce billet, mais jugez-en vous-même, ma chère, le voici. À Maisonville, j'ai lu avec transport la lettre dont vous m'avez fait le cadeau hier matin, ô la plus aimable des femmes. Je suis fâchée que l'accident survenu à mon carrosse ait pu vous inquiéter un moment. Mais j'ai été très flattée en même temps de la manière obligeante dont vous exprimez votre embarras. Croyez-moi, ma chère enfant, je suis très sensible à la bonne opinion que vous avez prise de moi. Elle m'honore et me pénètre de tendresse et de gratitude. Je serai fière de continuer la correspondance que vous avez commencée avec tant de complaisance et j'espère que vous sentez trop le prix de cette faveur pour que vous pensiez à me la retirer. Je désire passionnément de mettre à vos pieds les expressions de ma reconnaissance et de vous payer le tribut qui est dû à vos charmes et à vos perfections. Marquez-moi, je vous supplie, jusqu'à quand vous comptez rester en ville. Le domestique par lequel j'enverrai prendre votre réponse est chargé de me la porter en poste. Je l'attendrai avec une impatience que rien ne peut égaler, si ce n'est de vous assurer de vive voix combien je suis, ma belle enfant, votre sincère admirateur, Orville. Quelle lettre ! Chaque ligne est un outrage. Vous savez, ma chère amie, en quels termes je lui ai écrit. Méritais-je une telle réponse ? Ce qui m'humilie le plus, c'est de m'être attiré volontairement cet affront. Mon intention n'était que de lui faire une simple excuse. Je croyais la lui devoir, je croyais la devoir à moi-même. Et, à en juger par sa lettre, ne dirait-on pas que la mienne contenait l'aveu de sentiments propres à exciter son mépris ? Je me retirai dans ma chambre au moment où la lettre me fut rendue. Je la parcourus rapidement et, je l'avoue, elle me fit plaisir. Incapable de soupçonner une incongruité de la part de Mylord Orville, je n'observai pas d'abord ce que sa réponse renferme de choquant. Je ne m'arrêtai qu'à ce qu'il m'y disait d'obligeant, et je fus si peu maîtresse de mes mouvements qu'il me fallut du temps pour me remettre. Je me promenai à grands pas dans ma chambre et je me demandai à diverses reprises. Serait-il possible que Mylord Orville t'aimât ? Mais ce songe fut bientôt dissipé et je me réveillai pour éprouver des sensations très différentes. Une seconde lecture du billet me dessilla les yeux. Je ne le reconnus plus. Chaque parole me parut changée. Chaque phrase choisie pour me faire rougir. Mon étonnement fut extrême et je n'en revins que pour m'abandonner à une juste indignation. Je ne me fais point de peine d'avouer que j'ai commis une faute en écrivant à Mylord Orville. Mais était-ce à lui de m'en punir ? Si je l'ai offensé, ne pouvait-il pas prendre le parti de garder le silence ? Si la démarche que je me suis permise lui semblait déplacée, ne devait-il pas l'excuser par mon âge et par mon défaut d'expérience ? Oh, Marie, comme je me suis trompée sur le compte de cet homme ! Ma plume essaierait en vain de vous exprimer la haute idée que j'avais de lui. Si je l'avais moins estimé, je ne me serais point tant précipitée de lui écrire. Malheureuse précipitation ! Combien elle me cause de regrets ! Quoi qu'il en soit, je devrais peut-être me réjouir plutôt que de me chagriner, puisque cette affaire me découvre à fond le caractère de Mylord Orville et écarte une trop grande partialité qui m'aveuglait sur ses défauts et ne me laissait voir que ses vertus et ses bonnes qualités. Si j'avais été plus longtemps dans l'erreur, si j'avais eu le loisir de me fortifier dans les préjugés favorables que j'avais adoptés, qui sait à quelles extrémités mes fausses idées m'auraient conduite. Je crains que mon danger n'ait déjà été plus grand que je ne le croyais, et je n'y saurais penser sans trembler. Mon cœur n'était que trop enclin à recevoir des impressions qui, si elles avaient pris racine, ruinaient pour toujours mon repos et mon bonheur. Quelque disposé que je sois à chasser de mon esprit la mélancolie qui la siège, et à vous présenter, mon ami, des images plus riantes, je n'y saurais réussir, car, indépendamment de l'humiliation que je souffre, j'ai encore un autre sujet de chagrin. Hélas, ma chère Marie, j'ai troublé la tranquillité du meilleur des hommes. Je n'ai pas eu le courage de lui montrer cette cruelle lettre. Je ne pouvais me résoudre d'avilir à ses yeux celui que peu auparavant j'avais élevé jusqu'aux nues. Mon premier plan fut de garder par devers moi le secret que vos instances amicales viennent de m'arracher. Aujourd'hui, je voudrais que je n'en eusse jamais fait un mystère à M. Villard. Que doit-il penser du sérieux qui, malgré moi et contre ma coutume, m'accompagne partout ? Ce que je crains le plus, c'est qu'il ne s'imagine que mon séjour à Londres ne m'ait dégoûté de la campagne. Tout le monde s'aperçoit que je ne suis plus la même. Mon visage est pâle et défait, ma santé dérangée. On me le dit, on glose. Mais ces critiques ne me toucheraient pas si elles n'attiraient en même temps l'attention de M. Villard. Chacun de ses regards me parle du tendre intérêt qu'il prend à ma situation. Dans un entretien que j'ai eu aujourd'hui avec lui sur mon voyage à Londres, il a fait mention de Myler d'Orville. J'en ai été tellement décontenancée que j'ai cherché à détourner immédiatement la conversation. Il l'a continué malgré cette défaite et, à ma grande surprise, il a fait le panégyrique du Lord dans les termes les plus forts, prônant surtout sa conduite décente et honnête à Marybone. J'avais les joues en feu et bien de la peine à contenir mon dépit. Pouvais-je en effet entendre louer tranquillement par le meilleur des hommes celui dont je m'étais fait autrefois l'idée la plus flatteuse et qui, par sa conduite, m'a détrompé si cruellement ? Je crains d'apprendre ce que M. Villard aura pensé de mon silence et de mon embarras. Mais j'espère qu'il ne touchera plus cette matière. En attendant, j'aurai des reproches à me faire si je me livrais à une mélancolie qui devient contagieuse pour le respectable vieillard dont le consentement me tient à cœur par devoir. Je suis reconnaissante de ce qu'il n'a point persisté à sonder ma plaie, et je tâcherai de la guérir par la conviction que j'ai de n'avoir pas mérité l'affront qu'on m'a fait essuyer. Mais n'est-il pas triste, ma chère, de vivre dans un monde trompeur où il faut se défier de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, et même de ce qu'on sent ? Lettre 59. Continuation de la précédente. Berry Hill, 29 juillet. Vous m'embarrassez, ma chère Marie, avec vos badinages, et je ne sais pas trop comment y répondre. Il n'en est pas moins vrai, cependant, que vos soupçons, loin d'être fondés sur des faits, ne sont que l'ouvrage de votre imagination. Je ne mérite point le reproche de faiblesse que vous me faites, et pour lever vos doutes, il ne me reste qu'à tâcher de me mettre au-dessus de mes chagrins. Je vais y travailler sérieusement. Vous me témoignez votre surprise de ce que cette affaire peut troubler mon bonheur, tandis que le cœur n'y est pas intéressé. Et croyez-vous réellement, vous qui connaissez la haute idée que j'avais prise de Myler d'Orville, qu'une révolution aussi étonnante dans son caractère puisse m'être indifférente ? Une lettre telle que la sienne m'eût choquée même de la part d'un étranger. Donc je devais à bien plus forte raison y être sensible lorsqu'elle me vient de l'homme dont je l'attendais le moins. Vous êtes bien aise, dites-vous, de ce que j'ai laissé la lettre sans autre réponse. M'eût-il écrit dans les termes les plus respectueux, je me serais bien gardée de pousser cette correspondance plus loin. L'air mystérieux avec lequel ce billet fut remis et le projet de renvoyer son domestique le lendemain suffisait pour m'inspirer de la défiance. Je suis naturellement ennemie des menées sourdes et de tout ce qui craint le grand jour, quoique dans la démarche dont il s'agit, j'ai eu le malheur de m'écarter du droit chemin que j'ai été accoutumée de suivre depuis ma plus tendre enfance. Il prétend que j'ai engagé un commerce de lettres avec lui. Et comment peut-il me supposer un tel dessein, me croire aussi hardie, aussi effrontée, aussi sotte? J'ignore si son valet est repassé le lendemain, mais je me réjouis d'avoir quitté Londres avant le remarquer et sans avoir laissé de message. Qu'avais-je à dire d'ailleurs ? C'eût été faire trop d'honneur à une telle lettre que d'en tenir le moindre compte à l'auteur. Mais je n'en reviens pas. Comment a-t-il pu l'écrire ? Oh, ma chère Marie, qu'est-ce qu'il a engagé à offenser une fille qui aurait mieux aimé mourir que de lui faire de la peine ? Quelle licence dans son style ! Observez avec quel peu de ménagement il a entrecoupé ses prétendus remerciements et ses expressions de reconnaissance. Qui aurait soupçonné un homme aussi modeste en apparence d'être capable d'une telle vanité ? Je regrette de plus en plus la retenue que je me suis imposée envers M. Villard. Je ne comprends rien à mon opiniâtreté. Dans les premiers temps, je sentais une répugnance insurmontable de publier cette affaire. Aujourd'hui, je suis honteuse de convenir que j'ai un secret à révéler. Mais je mérite punition. C'est par une fausse délicatesse que j'ai gardé le silence. Car, puisque Mylord Orville lui-même n'était pas jaloux de soutenir son caractère, était-ce à moi de le sauver aux dépens du mien ? Dans le moment présent, où le premier choc est passé et où je commence à envisager l'affaire sous son vrai point de vue, je crois que je serais tranquille si j'étais moins tourmentée par mes amis du voisinage. Tout le monde crie contre moi, on dit que mon humeur a changé, que je suis d'un sérieux à glacer, que ma santé tombe à vue d'œil. Ces remarques n'échappent point à M. Villard et il en gémit. Un nuage épais couvre son front respectable aussi souvent qu'on parle de moi, et ses regards expriment en même temps sa tendresse et son inquiétude. J'en souffre d'autant plus que je suis la seule cause de ses chagrins. Madame Selwyn, qui possède une très belle terre à 3 miles de Berry Hill et qui a toujours eu pour moi beaucoup d'amitié, fera dans peu un tour à Bristol. Elle a proposé à M. Villard de m'y conduire pour établir ma santé. Il était embarrassé s'il devait m'y laisser aller ou non. Mais j'ai décliné cette offre sans balancer, en protestant que l'air pur de notre habitation contribuerait plus que tout autre au retour de mes forces. Il m'a remercié de ce que je voulais bien consentir à ne pas le quitter. Que de bonté ! Puissais-je, comme il me l'écrivait dans l'effusion de son cœur, devenir réellement la consolation de ses vieux jours ? Je ne demande plus d'être séparée de lui. Sérieuse à Berry Hill, je serai malheureuse partout ailleurs. La présence de M. Villard m'aidera à retrouver la gaieté de mon caractère et, avec un léger effort, je suis presque sûre d'y réussir. La bienveillance d'un ami tel que lui me rend du courage. J'oublierai mes soucis dans la douceur de son commerce et sa piété me servira d'exemple. Je sais que je lui dois tout et ses bienfaits ne pèsent point à ma reconnaissance. Loin de là, je fais consister ma gloire et ma satisfaction à me rappeler la somme des obligations qui me sont imposées envers lui. Il était un temps où je pensais qu'il existait un homme qui, lorsque l'âge aurait mûri son esprit, brillerait parmi ses semblables avec ce même éclat de vertu qui distingue à mes yeux le digne M. Villard. Éclat infiniment supérieur aux bluettes passagères du bel esprit et de l'imagination, puisqu'il a pour but le bien-être du genre humain, sans se borner à briguer une vaine et stérile admiration. Mais quelle était mon erreur ? Que j'ai mal jugé ! Que j'ai été cruellement trompée ! Je n'irai point à Bristol, malgré les sollicitations pressantes de Madame Selwyn. Je ne veux plus voir le monde. Le peu de mois que j'ai passé dans les tourbillons ont suffi pour m'en dégoûter. J'en déteste jusqu'au nom même. J'espère aussi ne plus revoir Mylord Orville. Accoutumé à le considérer depuis notre première connaissance comme un être supérieur à son espèce, sa présence pourrait me faire oublier mon ressentiment et ses torts. Car comment pourrais-je, ma bonne amie, voir le Lord Orville et être mécontente de lui ? Je l'aimais en sœur. Je lui aurais confié chaque pensée de mon cœur s'il m'avait demandé ma confiance. Telle était l'idée que j'avais de son honneur, de sa délicatesse et de son caractère. 1000 fois, je me suis dit que cet homme n'avait d'autre vue, d'autre étude que la prospérité et la félicité de son prochain. Mais je n'y penserai plus, je n'en parlerai plus, je n'en écrirai plus. Adieu, ma chère amie. Lettre 60. Continuation de la précédente. Berry Hill, le 10 août. Vous vous plaignez de mon silence, ma chère Miss Mirvan. Mais que voulez-vous que j'écrive ? Je n'ai point d'événements à vous marquer et mon imagination n'est pas assez vive pour suppléer aux défauts des matières. Aujourd'hui, cependant, j'ai de quoi étoffer une lettre puisque j'ai à vous rendre compte d'une conversation que j'eus hier avec M. Villard. Nous avions déjeuné ensemble et depuis mon retour, je ne me rappelle pas d'avoir passé une heure aussi gaie. Après le repas, il ne se retira pas dans son cabinet selon sa coutume. Il continua à discourir avec moi pendant que je travaillais et vraisemblablement, il ne m'aurait pas quitté de toute la matinée si nous n'avions été interrompus par la visite d'un fermier qui venait demander conseil au sujet de quelques affaires domestiques. Ils sortirent l'un et l'autre. Dès que je fus seule, ma pauvre tête s'aperçut de l'effort qu'elle avait fait pour soutenir la conversation et je me sentis fatiguée. Je laissai là mon ouvrage et, les bras appuyés sur la table, je m'abandonnai de nouveau à mes réflexions que j'avais réussi à endormir pendant un moment. À ce calme succéda une tristesse involontaire qui s'empara de toute mon âme. J'étais dans cette attitude quand M. Villard entra dans la chambre. Je ne lui avais point entendu ouvrir la porte et je le vis tout d'un coup devant moi, me fixant d'un air attentif. Je me recueillis au plus vite et, en me levant avec précipitation, je m'écriai « Le fermier Smith est-il parti, monsieur ?»« Ne vous dérangez pas, » me répondit-il gravement. « Je retourne tout de suite dans mon cabinet. »« Vous ne resterez donc pas avec moi comme je l'espérais ?»« Comme vous l'espériez ? » Et était-ce effectivement ce que vous attendiez ? Cette question était trop inattendue pour que je pusse y répondre d'abord. Mais lorsque je vis qu'il se disposait à s'en aller, je le suivis et je le suppliai de demeurer. « Non, me dit-il avec un sourire forcé, non, ma chère, je ne veux point troubler vos méditations. » Je fus bien plus décontenancée, et pendant que je cherchais à lui répondre, il sortit. Mon cœur l'accompagna, mais je n'eus point le courage de le suivre. L'idée d'une explication, amenée d'une manière si sérieuse, m'épouvanta. Je me souvins des soupçons que vous aviez conçus au sujet de mon inquiétude présente, et je craignais que M. Villard ne l'interprétât de même. Seule et pensive, je passai le reste de la matinée dans ma chambre. J'essayai de paraître gaie au dîner. Mais M. Villard lui-même était sérieux, et je ne pus suffire seule à la conversation. Dès qu'on eut desservi, il se mit à lire et je m'assis dans une croisée. Je crois y être resté près d'une heure. Toutes mes idées roulaient sur le moyen de dissiper les doutes de M. Villard sans l'informer des circonstances qu'il me coûtait tant de lui avoir cachées. Mais tandis que je formais ainsi mon plan pour l'avenir, j'oubliais le moment présent et j'étais tellement absorbée dans l'objet de mes spéculations que je ne fis nulle attention au mauvais effet que devait produire mon air rêveur et distrait. Enfin, après un moment de réflexion, je regardai autour de moi et je m'aperçus que M. Villard avait mis son livre de côté pour m'observer à son aise. Aussitôt, je revins de ma léthargie. Et sans savoir ce que je disais, je lui demandai s'il avait lu. « Oui, » me répondit-il après une petite pause. « Oui, mon enfant, je viens d'étudier un livre qui m'afflige et m'embarrasse. » Je compris de quel livre il prétendait parler et vous sentez bien que je ne fusse pas prompte à répliquer. « Qu'en pensez-vous, » continua-t-il, « si nous lisions ensemble ? Voulez-vous m'aider à débrouiller ce que le sujet a d'obscur ?» Je poussai un profond soupir et, s'approchant de moi, il me dit d'un ton ému « Mon enfant, je ne saurais être plus longtemps témoin indifférent de vos chagrins. Vos soucis ne sont-ils pas les miens ? Est-il juste d'ailleurs que vous m'en laissiez ignorer la cause, puisque j'en partage les faits ?»« La cause, monsieur, et quelle cause, je vous prie ? Je ne sais pas, j'ignore moi-même. » »« Ne craignez pas, ma très chère Evelina, de vous ouvrir à moi. Parlez-moi à cœur ouvert. » Je vous promets une pleine indulgence pour tout ce que vous me confierez. Avouez-moi donc quel est le sujet qui nous afflige réciproquement. Qui sait si je n'aurai pas à vous donner des conseils qui puissent adoucir vos maux. Vous êtes trop bon, monsieur, mais en vérité, je ne vous comprends pas. Je sens, ma chère, qu'il vous en coûte de vous expliquer. Je vais voir si je puis attraper votre secret en le devinant. « Monsieur, la chose est impossible. Personne ne devinerait, ne s'imaginerait jamais. » Je m'interrompis brusquement, car je remarquai que, par ce qui m'était échappé, j'étais convenu qu'il existait un secret à deviner. Heureusement que M. Villard ne prit pas garde à ma bévue. Mais que j'essaie du moins, peut-être suis-je meilleur devin que vous ne pensez, et si j'en crois les probabilités, « je vous assure, ma chère, que je ne suis pas fort éloignée du but. »« Ah ça, sois de bonne foi, mon enfant, et parle-moi sans réserve. N'est-il pas vrai qu'après la vie tumultueuse et dissipée que tu as menée à Londres, la campagne te paraît aujourd'hui un séjour ennuyant, insipide ? Non, assurément, je l'aime plus que jamais, et plus que jamais, je désirerais ne l'avoir point quittée. Oh, mon enfant, pourquoi ai-je consenti à ce voyage? Ma raison s'y est toujours opposée, mais je manquais de courage pour tenir contre les instances qu'on me faisait de toutes parts. Oui, monsieur, j'ai à me reprocher l'indiscrétion avec laquelle je vous ai arraché votre consentement, mais j'en suis assez puni. Ces réflexions viennent trop tard. Tâchons seulement de nous épargner du repentir pour l'avenir et de tirer quelque utilité de nos fautes passées. Il prit alors un siège et m'invita de m'asseoir à côté de lui, puis il continua en ces mots. Que je poursuive mes conjectures. Regrettez-vous peut-être la perte des amis que vous avez laissés en ville? La privation de leur société vous fait-elle de la peine? L'idée de ne pas les revoir de sitôt vous chagrine-t-elle? Par exemple, Mylord Orville. Je ne pus plus rester sur ma chaise et je me levai pleine de confusion. Non, mon cher monsieur, ne m'en demandez pas davantage. Je n'ai rien à vous avouer, rien à vous dire. Et si j'ai été pendant quelque temps plus sérieuse qu'à l'ordinaire, c'est uniquement par hasard. Je ne saurais en alléguer la raison. Vous faut-il un autre livre, monsieur, ou bien souhaitez-vous de reprendre celui-ci ? Il garda un silence absolu pendant que je faisais semblant de m'occuper à chercher un livre. Ensuite, il continua en poussant un soupir. « Hélas, je ne le vois que trop. Mon Evelina m'a été rendue, mais je n'ai point retrouvé mon enfant. » Ce mot me toucha vivement. « Oui, monsieur, m'écriai-je, elle vous appartient plus que jamais. Sans vous, le monde serait pour elle un désert et la vie un fardeau. Pardonnez-lui. » Et daignez être encore une fois le dépositaire de toutes ses pensées. Il n'y a qu'elle qui puisse savoir combien je désire sa confiance et quel est le prix que j'y attache. Mais de la lui extorquer, de la lui arracher, c'est à quoi ma droiture et mon amitié ne consentiront point. Je suis fâchée d'avoir tant insisté. Laissez-moi, mon enfant, et tâchez de vous remettre. Nous nous reverrons vers l'heure du thé. Vous voulez donc refuser de m'écouter ? Non, mais je ne voudrais point vous contraindre. Depuis longtemps, j'ai observé que vous aviez des chagrins. Je les ai partagés et je me suis défendue de vous en parler, car j'espérais que le temps et l'éloignement de ce qui peut troubler votre repos amèneraient un changement. Mais hélas, votre affliction augmente, votre santé se dérange, en un mot, vous n'êtes plus la même. « Oh, ma chère Evelina, une telle altération fait saigner mon cœur. Faut-il que je voie mon enfant chéri, celle que j'avais élevée pour être l'appui de ma vieillesse? Faut-il que je la voie succomber elle-même sous le poids d'une douleur secrète? Faut-il qu'elle me cache ses soucis, à moi qui devrais les partager? Mais retirez-vous, ma chère, allez dans votre chambre. Nous avons besoin tous deux de nous remettre. Une autre fois, nous reprendrons cette conversation. » « Ah, monsieur, m'écriai-je d'un cœur pénétré, souffrez que je reste avec vous. Ne me croyez pas dépourvu jusqu'à ce point de reconnaissance. » « Qu'il n'en soit pas question, interrompit monsieur Villard. Ce ne sont pas des reproches que je prétends vous faire, et je serais fâché que vous doutassiez un instant du droit naturel et légitime que vous avez à tout ce que je possède. Mon intention n'était pas de vous toucher. Je ne cherchais qu'à vous soulager. Mais l'inquiétude que je ressens moi-même m'a conduit trop loin et j'ai eu tort d'insister avec tant de force. Consolez-vous, mon enfant, le temps adoucira vos chagrins et tout ira bien. » Il me fut impossible de retenir plus longtemps mes larmes. J'en versai un torrent. Mon cœur brûlait de tendresse et de reconnaissance, mais j'étais accablée de l'idée que je m'étais rendue indigne de ces sentiments généreux. « Monsieur, lui dis-je d'une voix étouffée, vous êtes la bonté même, je ne mérite pas tant de faveurs. Je suis incapable de m'acquitter envers vous de ce que je vous dois. Mais du moins, mon cœur sent le prix de vos bienfaits et il vous en rend ses actions de grâce. » Ma très chère enfant, je ne puis vous voir pleurer. Séchez vos larmes si c'est pour moi qu'elles coulent. Ce spectacle m'afflige. Pensez-y, mon Evelina, et rassurez-vous, je l'exige. « Eh bien, monsieur, ajoutai-je en me jetant à ses genoux, dites donc que vous me pardonnez, que vous pardonnez ma retenue, que vous me permettrez de vous ouvrir les pensées les plus secrètes de mon cœur. Acceptez la promesse solennelle que je vous fais de ne jamais vous manquer de confiance. Mon père, mon protecteur, mon unique et mon meilleur ami, que je chéris et que je respecte, dites que vous pardonnez à votre Evelina, et elle s'appliquera à mieux mériter vos bontés. » Il me releva et m'embrassa tendrement. Il m'appela sa seule joie, son unique espérance sur la terre, l'enfant de son cœur. Il me serra dans ses bras, et tandis que je fondais en larmes, il tâcha de me consoler dans les termes les plus affectueux. Le moment où j'écartais cette réserve déplacée, que je m'étais follement imposée envers le meilleur des hommes, fut aussi celui où il me rendit toute son amitié. Le souvenir de cette réconciliation me sera cher à jamais. Revenus à nous-mêmes, nous reprîmes tranquillement nos places, et M. Villard semblait attendre l'explication que je lui avais fait espérer. J'étais extrêmement embarrassée pour entamer ce récit. Il vit ma confusion, et pour me l'épargner, il me demanda, avec le ton d'une aimable plaisanterie, si je voulais le laisser deviner encore. J'y consentis par mon silence. Je vous parlais tantôt, si je ne me trompe, du regret que vous devez avoir eu à quitter ceux qui vous ont fait à Londres un accueil si distingué. Il me semblait naturel que vous fussiez affligé de ne pas les revoir et de ne pas pouvoir répondre, suivant vos désirs, à leur amitié. De telles réflexions sont propres à faire impression sur un cœur aussi sensible que celui de mon Evelina. Vous ne me dites rien, ma chère. Voulez-vous que je vous nomme ceux que je crois mériter le plus vos regrets ? Je gardai toujours le silence, et il continua. Parmi les personnes dont parle votre journal de Londres, il n'en est point qui paraissent dans un jour plus avantageux que Mylord Orville. Peut-être. Je sais, monsieur, où vous voulez en venir, et j'ai craint longtemps que ce ne fût là l'objet de vos soupçons. Mais je vous proteste que vous êtes dans l'erreur. Je hais ce Lord Orville. Il est le dernier pour qui je serai prévenu. Je m'arrêtai. Monsieur Villard me fixa avec un air de surprise qui me fit rougir. « Vous haïssez Mylord Orville ? » répéta-t-il. Et sans chercher d'autre réponse, je tirai de mon portefeuille la lettre que je lui remis. « Tenez, monsieur, voyez combien les écrits de cet homme diffèrent de son langage. » Il la lut et la relut plus d'une fois avant que de parler. Puis il ajouta « Je suis tellement étonné que je ne sais pas ce que je lis. » Quand avez-vous reçu cette lettre ? Je le lui dis, et il a parcouru encore une fois. Il n'y a qu'une seule excuse à alléguer en faveur du Lord, il faut qu'il ait été pris de vin lorsqu'il a écrit cette singulière lettre. Mylord Orville pris de vin ? Lui, capable d'un excès ? Mais oui, monsieur, il n'y a rien que je ne croie de lui. Je ne puis concevoir qu'un homme dont la conduite a été marquée au coin de la plus grande délicatesse, qu'un homme qui, dans toutes les occasions, a montré les sentiments les plus estimables, ait pu se résoudre à insulter aussi ouvertement et aussi insolemment une jeune fille pleine de modestie. Mais, ma chère, vous eussiez dû mettre cette lettre sous enveloppe et la lui renvoyer sur le champ. Un tel ressentiment aurait été digne de votre caractère et l'aurait mise en état de justifier le sien. Je suis sûre qu'en relisant son billet le lendemain, il en aurait été honteux et aurait reconnu sa faute. En effet, ma chère Marie, pourquoi cette idée ne m'est-elle pas venue ? Une pareille démarche aurait pu me valoir les excuses de Mylord Orville et m'épargner des humiliations qui toutes retombaient à sa charge. Il est vrai qu'en adoptant la conjecture de M. Villard, le Lord aurait eu de la peine à se rétablir dans la haute opinion que j'avais eu la faiblesse de prendre de lui, puisque l'aveu de son intempérance l'aurait mis, à mes yeux, au niveau du commun des hommes, mais du moins mon orgueil aurait été satisfait. Supposez que Mylord Orville m'ait écrit effectivement, dans un instant où il n'était pas le maître de toute sa raison. Dois-je être encore sensible à son offense, tandis que j'ai pour moi l'approbation d'un vieillard respectable qui ne connaît le vice et ses excès que par ouï dire, sa bonté et les éloges qu'il a bien voulu me donner me rendent le courage et me consolent infiniment. Votre indignation, me dit-il, est une preuve de votre vertu. Vous vous êtes représenté Orville comme un homme sans défaut. Tout semblait annoncer son mérite, et vous avez cru que son caractère répondait à ce que les apparences en promettaient. Innocente et sans fraude, pouviez-vous prévoir ses artifices? Vos espérances ont été trompées, et vous en avez été d'autant plus affligée que vous vous attendiez peu à une pareille révolution. Ces paroles resteront gravées dans mon esprit, elles me serviront de consolation et d'encouragement. La conversation que je viens d'avoir avec M. Villard m'a sans doute beaucoup affectée, mais elle contribuera à dissiper mes chagrins. La réserve est l'ennemi du repos, et dans quelque faute que je puisse tomber à l'avenir, je ne me permettrai plus de dissimuler. Je voue à ma chère Marie et au digne M. Villard une confiance sans bornes. Quoique je me sente actuellement soulagée, il s'en faut pourtant que je sois telle que je devrais être. J'ai mis bien du temps à écrire cette lettre. Dans peu vous en recevrez, j'espère, de plus gai. Adieu, ma douce amie. Je vous prie surtout de laisser ignorer nos secrets à madame votre mère. Elle veut du bien à Mylord Orville, et ce n'est point par moi qu'elle doit apprendre combien peu il mérite l'honneur qu'elle lui fait. Lettre 61. Continuation de la précédente. Bristol, le 28 août. Vous serez surprise, ma chère Marie, de me trouver à l'endroit d'où je date ma lettre. Mais j'ai été bien malade et M. Villard, qui croyait entrevoir du danger, a insisté pour que j'accompagnasse Mme Selwyn à Bristol. Il a même prié cette dame d'accélérer son voyage. Nous avons fait la route à petite journée et j'ai été moins fatiguée que je ne le craignais. Nous sommes dans un pays délicieux, des plus beaux environs, un air pur et un temps favorable continueront à me rendre la santé. Je me sens déjà beaucoup mieux relativement aux indispositions du corps sentant. Je ne puis vous exprimer avec quel regret je me suis séparée du respectable M. Villard. Ce n'était plus le voyage de Howard Grove. Alors j'étais tout entière à mes espérances, je pleurais et j'étais contente. Je m'inquiétais de le quitter et je pressais en même temps mon départ. Les circonstances ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Nulle sensation agréable ne se mêlait à mes soucis. Plus d'espérance, plus d'attente. Je quittais ce que j'avais de plus cher au monde, et cela pour un motif qui, j'ose le dire, m'intéresse peu pour le rétablissement de ma santé. Encore, si c'eût été pour aller voir ma douce Marie et sa mère, j'aurais eu moins de peine de me séparer de lui. Madame Selwyn a pour moi 1000 attentions obligeantes. C'est une femme adroite, mais on serait tenté d'accuser son intelligence d'être un peu trop mal. Il est fâcheux que ses manières méritent la même épithète. En tâchant d'acquérir la solidité de l'autre sexe, elle a perdu toute la douceur d'une autre. Cependant, comme je n'ai ni le talent ni le courage d'argumenter avec elle, je n'ai pas à me plaindre d'elle personnellement. Son exemple me prouve de plus en plus combien la douceur est une qualité indispensable pour les femmes. Celle qui en manque m'embarrasse presque plus que la société des hommes. M. Villard n'aime pas trop Mme Selwyn et il a désapprouvé plus d'une fois son penchant à la satire. Je crois même qu'il ne m'a laissé partir avec elle qu'à contre-cœur et qu'il y a été déterminé par la seule idée que l'usage des eaux de Bristol me ferait du bien. Madame Clinton est aussi avec moi. De sorte que je suis, on ne peut pas mieux soigner. Je continuerai à vous écrire avec autant d'exactitude que si vous étiez ma seule correspondante. Je donnerai peut-être moins d'étendue à mes lettres, mais vous savez que je dois partager mon temps entre vous et M. Villard. Il s'attend à recevoir de mes nouvelles dans le plus grand détail, et rien n'est plus juste que de le contenter. Mon devoir m'y oblige, et ma chère Miss Mirvan m'excusera volontiers si je suis un peu moins exacte avec elle, pour l'être d'autant plus avec un ami respectable auquel j'appartiens en entier. Lettre 62. Evelina à M. Villard. À Bristol, le 12 septembre. La première quinzaine que j'ai passée aux eaux s'est écoulée dans la plus parfaite tranquillité. Je me flattais de continuer d'y jouir d'un repos constant, mais déjà je vois mes espérances trompées et il est très probable que le calme sera suivi d'un orage furieux. Nous étions sortis un matin, Madame Selwyn et moi, pour nous rendre à la fontaine, lorsque nous rencontrâmes trois jeunes gens excessivement bruyants qui ne semblaient être ici que pour tuer le temps et qui en était d'autant plus importun. Ils eurent la hardiesse de se mettre sur notre passage pour nous examiner de près. Je devins surtout l'objet de leur impertinente curiosité. L'un d'eux s'avisa de me regarder sous le chapeau pendant que les autres se parlaient à l'oreille. Madame Selwyn, choquée de cette impolitesse, prit un air sérieux et leur dit « Messieurs, vous plaît-il de passer ou du moins de nous laisser continuer notre chemin ?»« Très volontiers, madame, si c'est pour vous seule que vous demandez cette liberté. » « Pour moi et pour mademoiselle aussi, si vous le voulez bien. Du moins, je vous le conseillerais, ne fût-ce que pour épargner à mon domestique la peine de vous apprendre à vivre. » Ce ton imposant les frappa d'abord. Puis ils s'en moquèrent. L'un d'eux riposta qu'il serait charmé que le drôle commençât ses leçons pour qu'il pût avoir le plaisir de le jeter dans la rivière. Un autre s'approcha de moi avec une effronterie sans égale et me dit « Par ma foi, je crois vous connaître et je ne me trompe point. N'ai-je pas eu l'honneur de vous voir au Panthéon ?» Je le reconnus alors pour ce même personnage qui m'avait tant tourmenté dans l'assemblée dont il parlait. Je lui fis une révérence sans ajouter d'autre réponse. Ils me saluèrent tous assez cavalièrement et après avoir fait quelques mauvaises excuses à Madame Selwyn, ils se rangèrent pour nous laisser passer, mais en demandant la permission de nous accompagner. « Et où vous êtes-vous cachée, madame, pendant tout ce temps ?» poursuivit celui qui m'avait déjà adressé la parole. « Savez-vous bien que j'ai été un siècle à vous chercher ? Je ne vous ai trouvé nulle part et personne n'a pu me donner de vos nouvelles, personne n'a pu me dire ce que vous étiez devenu. Dans quelle prison vous a-t-on claquemuré ? Chaque soir, j'ai couru deux ou trois endroits publics dans l'espérance de vous revoir. Avez-vous été à la campagne ? Oui, my lord. » D'aussi bonne heure, et pourquoi du moins n'avoir pas attendu la fête du roi ? Je n'ai rien de commun avec cette fête. Tant mieux, ma foi, pour toutes les femmes qui devaient en être. Êtes-vous déjà depuis quelque temps à Bristol ? Depuis une quinzaine de jours, tout au plus. Comment, morbleu, et je n'ai pas eu le bonheur de vous y rencontrer plus tôt, mais je joue de guignon depuis que je suis arrivé ici. Comptez-vous encore d'y faire quelques séjours ? « La chose est incertaine, my lord. »« 6 semaines pour le moins, j'espère, car au diable les os si vous partez plus tôt. » Madame Selwyn, qui avait écouté jusqu'ici la conversation avec impatience, l'interrompit alors. « Vous vous proposez donc, my lord, d'embellir le séjour d'un pays où vous avez quelque espérance d'habiter un jour ?»« My lord, cette dame vous en veut, » reprit l'un des compagnons. L'autre s'était absenté. « Point du tout, » répondit Madame Selwyn. « Mais comme il serait possible que Mylord fît un jour le voyage dont il parle, il est juste qu'il pense à s'y préparer les plaisirs. » Quelque dégoûté que je fusse de ce lord, je désapprouvais pourtant la sortie de Madame Selwyn. Mais vous la connaissez, monsieur, et vous savez qu'elle ne laisse échapper aucune occasion de donner carrière à son humeur satirique. Le lord. « Peu m'importe l'endroit que j'habiterai. » Mais je suis moins facile sur la société que j'y trouverai. C'est pourquoi je souhaiterais que les objets qui m'ont charmé dans ce monde-ci me suivissent dans l'autre pour ma consolation. Madame Selwyn. Comment, my lord, voudriez-vous dégrader votre demeure en y admettant les habitants insipides des régions inférieures ? Le lord se retourna vers moi sans répondre. Que ferez-vous aujourd'hui de votre soirée, madame ? « Je reste chez moi, my lord. »« Et à propos, où demeurez-vous ? » ?»« Les jeunes demoiselles ne demeurent nulle part, » interrompit encore une fois Madame Selwyn. « Cette ridicule femme, » me dit le lord à l'oreille, « est-elle votre mère ?»« Quelles expressions, monsieur, pour une pareille question !»« Non, my lord. »« C'est donc votre tante ?»« Non plus. » »« Qu'elle soit ce qu'elle voudra. » Je désirerais qu'elle se mêlât de ses affaires. Une femme qui a passé la trentaine, que diable fait-elle au monde ? Elle n'y est plus qu'un meuble d'embarras. Irez-vous à l'assemblée ? Je ne crois pas, my lord. Et comment faites-vous donc pour passer votre temps ? D'une façon, s'écria Madame Selwyn, qui vous paraîtra singulière. Mademoiselle lit. Ah ah ! Reprit le compagnon du lord, vous voilà tombée en de bonnes mains. Le lord. Vous auriez plus beau jeu, madame, avec mon ami Coverley. car je vous promets qu'avec moi, vous ne gagnerez pas grand-chose. » Madame Selwyn. « Avec vous, mylord, point du tout, je n'en ai pas la vanité. Ce que j'en dis là n'est absolument que par manière de conversation, sans que j'y cherche malice. Ce serait avoir une petite idée de vous, mylord, que de vous croire sensible à la critique. » Le lord. « En vérité, madame, vous ne sauriez mieux faire que de tourner vos épigrammes contre Monsieur Coverley. Vous trouverez là votre homme. Avec moins de modestie, je parie qu'il aurait été un bel esprit. » Monsieur Coverley. « Tranquillisez-vous, mylord. S'il plaît à madame de réserver toutes ses faveurs pour vous, pourquoi voulez-vous me les faire partager par force ?» Madame Selwyn. « Ne craignez rien, messieurs. Je ne suis point une femme romanesque et il n'est point question ici de faveur, ni pour l'un ni pour l'autre. » Le lord continua à m'interroger. « Avez-vous été malade depuis que je vous ai vu ?»« Oui, mylord. » Je l'aurais deviné. Vous avez mauvais visage et c'est vraisemblablement la raison pour laquelle j'ai eu tant de peine à vous retrouver. » Madame Selwyn. « Voilà une découverte, mylord, qui ne me semble pas un chef-d'œuvre de galanterie. Il y aurait eu moyen, je crois, de l'annoncer d'une manière un tant soit peu plus polie. » Le lord. « Au diable si j'y résiste. Cette femme ne me passe pas un seul mot. Allons, Coverley, entreprenez-la, je vous en prie. » Celui-ci s'excusa. Et le lord m'ayant demandé si j'avais coutume de venir tous les matins à la fontaine, je lui répondis que non. Nous y étions précisément arrivés, et je pus enfin terminer cet entretien, si toutefois il est permis d'appeler ainsi une suite de questions sans liaison et sans intérêt. J'échappai aux importunités de ce gentilhomme grâce à Madame Selwyn, qui m'avait joint une nombreuse société de dames. Deux d'entre elles me ramenèrent. Le lord eut la curiosité de nous suivre de loin jusqu'à la porte de nos appartements. Madame Selwyn était impatiente de savoir par quel hasard j'avais fait la connaissance d'un homme dont les manières annonçaient un libertin déterminé. Je ne fus point en état de la satisfaire, puisque j'ignore même le nom du lord. Elle continua ses recherches de notre côté, et nous recueillîmes dans l'après-dîner des informations détaillées par le canal du sieur Ridgeway, notre apothicaire. Comme cet inconnu se distingue particulièrement par la hauteur de sa taille, nous n'eûmes pas beaucoup de peine à le dépeindre. M. Ridgeway nous rapporta qu'il s'appelait mylord Merton, que, parvenu depuis peu à ce titre, il avait déjà dissipé plus de la moitié de sa fortune, qu'au reste, grand amateur du sexe, il passait pour un homme de mauvaise humeur, peu vu dans la société d'honnêtes femmes et n'ayant d'autre amusement que le jeu et les courses de chevaux. « Eh bien, Miss Anville, me dit Madame Selwyn, n'ai-je pas lieu d'être contente de l'avoir traité un peu rudement? Laissez-moi le soin de le tenir en respect. »« Oh, madame, répondit le sieur Ridgeway, vous pouvez le voir sans danger. Il va se mettre dans la réforme. »« Prétendez-vous dire par là qu'il va se marier ?»« À peu près, madame. Du moins, on croit que le mariage se fera bientôt. Il a été depuis longtemps sur le tapis, mais les parents de la demoiselle n'y ont pas voulu consentir avant qu'elle fût majeure. Le frère surtout s'y est vivement opposé. Aujourd'hui, cependant, que sa sœur est maîtresse de ses volontés, prend le parti de se tenir tranquille. La prétendue est jolie et elle sera puissamment riche dans la suite. Nous l'attendons tous les jours aux eaux. « Comment l'appelez-vous ? » demanda Madame Selwyn. « Larpente, Lady Louise Larpente, « sœur de mylord Orville. »« Orville ? » répétai-je avec un mouvement de surprise. « Oui, madame, mylord arrive avec elle à ce qu'on m'a écrit. Ils logeront à Clifton Hill, chez madame Beaumont, une de leurs parentes. »« Mylord arrive avec elle. Oh, si vous saviez quelle émotion me donnèrent ces paroles ! Quel étrange événement, mon cher monsieur ! Faut-il justement qu'il choisisse ce moment-ci pour venir à Bristol ? Il est impossible que je puisse l'éviter, Madame Selwyn étant liée avec Madame Beaumont. Peu s'en est fallu même que mylord Orville et moi n'eussions logé ensemble. Madame Beaumont a offert sa maison à Madame Selwyn, et celle-ci n'a décliné cette politesse qu'à cause de l'éloignement où nous eussions été des fontaines. Que je crains la première entrevue ! Puissé-je quitter Bristol avant son arrivée ? Sa présence me fera trembler. Ah, si ses yeux étaient d'accord avec cette cruelle lettre, comment pourrais-je supporter sa vue? Si j'avais, selon votre idée, renvoyé le billet, je serais bien plus à mon aise. Il saurait du moins de quelle manière j'envisage sa conduite. Mais aujourd'hui, il jugera mes sentiments d'après la contenance que je garderai. Et qui me répond qu'il interprétera dans son vrai sens? Mon indignation sera peut-être taxée de confusion et ma réserve d'embarras. D'ailleurs, mon cher monsieur, se peut-il que je mette entièrement de côté les égards que j'ai eus pour lui, que j'oublie tout à fait le plaisir que je trouvais autrefois à le voir? Il est naturel qu'à notre entrevue, le souvenir de la lettre sera la première chose qui nous frappera l'un et l'autre. Le lord cherchera peut-être à lire dans mes yeux ce que j'en pense. Oh, puisse-t-il lui exprimer combien je déteste l'insolence et la vanité? Il verrait alors combien il s'est trompé s'il a cru flatter par là mon caractère. Il fut un temps où j'aurais été révoltée de la seule idée qu'un homme tel que Merton dût appartenir à Mylord Orville. Cependant, j'ai appris avec quelque plaisir que celui-ci a désapprouvé le mariage projeté. Qu'un homme d'un caractère aussi dissolu puisse être le choix de la sœur de Mylord Orville, c'est ce que j'ai de la peine à comprendre. N'est-il pas également inconcevable qu'à la veille de son mariage, ce libertin pense encore à faire sa cour à d'autres femmes? Dans quel monde nous vivons? Qu'il est corrompu, dégénéré! Aurais-je tort si j'y renonçais pour toujours? Si je trouve que le cœur de Mylord Orville a conduit sa plume, je me persuaderai que, de tous les hommes, il n'y en a qu'un vraiment vertueux et que cet homme unique réside à Berry Hill.